Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Près de 60 ans après sa disparition, Frantz Fanon continue d'alimenter les débats et les réflexions autour du colonialisme et de ses conséquences. Référence majeure des études postcoloniales, figure emblématique et respectée du tiers-mondisme, citée et saluée dans les textes des rappeurs, Frantz Fanon n'est pas pour autant devenu une icône consensuelle. À cause, sans doute, de son engagement total aux côtés du FLN en Algérie, mais aussi des Damnés de la Terre, ouvrage reçu par beaucoup comme un appel, pour l'essentiel, à une violence aveugle. Un jugement que la préface de Sartre, associée à sa publication, n'aura pas contribué à contredire. Évoquant l'ensemble de son œuvre et de sa vie, c'était, avec ses contrastes, un visage plus lumineux de Frantz Fanon que dessinait l'émission que lui consacrait en 2001 Catherine Pont-Humbert sur France Culture. À travers les témoignages de Marie-Jeanne Manuelan, qui fut sa secrétaire, de la psychiatre-psychanalyste Alice Cherki, formée auprès de lui et qui partagea son combat, des témoignages des écrivains Albert Mémy et Samy Tchak, ce portrait revenait sur les différentes étapes de la courte existence de Frantz Fanon. De son enfance à Fort-de-France jusqu'à l'Algérie où il repose, en passant par son engagement volontaire à 18 ans dans l'armée française de la Libération. Un portrait qui, dans son engagement anticolonial et tiers-mondiste, mettait en lumière la place centrale de la pratique de médecin psychiatre de Frantz Fanon, passé par Saint-Alban aux côtés de François Tosquelles. Une vie, une œuvre, Frantz Fanon, une émission diffusée la première fois le 20 mai 2001 sur France Culture.
Français d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. À la même heure dans toutes les villes d'Algérie, les rues, les magasins offrent le même spectacle. Français d'Algérie, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous au plateau des Glières, par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger un gouvernement de sa République seul capable de sauver.
Une vie, une œuvre.
Ça a été, dis-moi, c'est la vérité.
Il avait une très belle tête, avec un air enfin, que je trouvais pour ma part fort sévère, mais dès qu'il souriait, ça, son visage s'illuminait. Et il était toujours élégant. Enfin, je le revois entrer dans son bureau. Il avait toujours au moins un surveillant. Et moi. Et alors il sort de sa poche, il était toujours, je ne vais pas dire parfumé parce que ça fait cocotte, mais il avait des aftershaves enfin. Et alors il a sorti de sa poche son mouchoir, qui était tout à fait bien plié. Et alors il a fait comme ça, puis il y avait un trou. Et il a dit, on n'est plus servi.
Yo, ouveille en société pour les milates. Toute la journée, yo ka étudier pour yo décaler yo.
Une vie, une œuvre, Frantz Fanon, 1925-1961, une émission de Catherine Pont-Humbert.
Talakadou, je suis responsable. Talakadou, je suis secrétaire. Pitou yon de ou yon kade kaleo. Ma kasonje, yé jeune mouna.
Bien, ma première impression a été que j'ai vu quelqu'un, puisque je dis que je ne me suis pas rendu compte au cours de cette rencontre qu'il était noir, que je l'ai dit bien après, de voir quelqu'un qui avait une présence absolument extraordinaire, qui, avec une très grande intensité du regard, une voix qui portait beaucoup, et qui disait des choses. Nous étions très jeunes, hein, à l'époque, le petit groupe de personnes qui ont assisté à cette conférence, dans un contexte que je vais quand même vous rappeler, parce que cette rencontre était dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait l'AJAS, l'Association de Jeunesse d'Action Sociale, et où nous étions, ce qui était très rare en Algérie à l'époque, des jeunes progressistes chrétiens, des jeunes musulmans et quelques juifs, quelques jeunes juifs, question de travailler ensemble et de réfléchir ensemble aussi bien pour sur le devenir de l'Algérie. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Fanon. Et cette impression qu'il m'a faite était comme quelqu'un qui disait d'ailleurs des choses tout à fait pertinentes sur la peur, sur l'angoisse, et qui faisait vraiment une résonance très très forte. Je me suis souviens plus du contenu de ses paroles, mais je me souviens encore de l'impression de résonance que ses paroles et que sa présence ont faite vers nous.
Dans sa préface au livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, préface par ailleurs très discutée, Jean-Paul Sartre a cette phrase d'une saisissante justesse. Il n'y a pas si longtemps, la terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1 milliard 500 millions d'indigènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient. À ce 1 500 000 000 d'indigènes silencieux, muets, Frantz Fanon a, l'un des premiers, donné une voix. Antillais de naissance, algérien d'adoption, psychiatre, militant, théoricien, écrivain, Frantz Fanon est un personnage à multiples facettes, dont la vie et l'œuvre sont portées par la conviction profonde qu'un homme nouveau peut naître des révolutions, collectives ou intimes, dans lesquels il s'engage. Son parcours est fondé sur une nécessité de compréhension des rapports noir-blanc, colonisé-colonisateur, et d'analyse des mécanismes intimes mis en œuvre par les individus qui se trouvent dépossédés et humiliés par le regard de l'autre, atteints jusqu'à l'âme par ces regards qui inhibent et pétrifient. Peau noire, masque blanc, essai fulgurant qui constitue l'avènement de la conscience noire, a influencé des générations d'intellectuels antillais, africains, maghrébins, noirs américains et conserve aujourd'hui toute sa valeur prophétique. Les damnés de la terre, livre culte dès sa parution en 1961, est quant à lui devenu le bréviaire de la décolonisation pour les pays du tiers-monde. Mais Fanon est également l'auteur de l'an 5 de la révolution algérienne et de Pour la révolution africaine. De son engagement pour la lutte d'indépendance de l'Algérie au sein du FLN, à ses écrits sur l'aliénation de l'homme noir, en passant par ses positions sur le tiers-monde et sa pratique d'une psychiatrie à visage humain, Frantz Fanon incarne un engagement, celui d'un homme qui a exposé sa vie, à en mourir à l'âge de 36 ans, et qui croyait en l'homme désespérément.
Il existe, dit-on, quelques racistes indécrottables, mais avouez que dans l'ensemble, la population aime bien. Avec le temps, tout cela disparaîtra. Ce pays est le moins raciste. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme, des films sur le racisme, des poèmes sur le racisme, des messages sur le racisme, les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure.
Frantz Fanon, lors du premier congrès des écrivains noirs à Paris, le 20 septembre 1956. Thank you. Alors, Frantz Fanon est né en Martinique en 1925, dans une famille de petite bourgeoisie. Il semble, Alice Cherki, que son enfance soit une enfance sans problème, mais qu'il ait par ailleurs assez peu souvent évoqué cette enfance. Était-ce une façon de se protéger ?
Non, c'est pas une façon de se protéger. C'est une façon de ne jamais se raconter, et pas plus de son enfance que de tout ce qu'il avait fait avant que nous le retrouvions en Algérie. Il disait qu'on ne se racontait pas, qu'on témoignait de son passé et qu'on agissait, c'est par l'action, c'est par ce qu'on faisait, que l'on témoignait de son passé. Et il avait même cette phrase un peu drôle, bon, qu'on peut avoir d'ailleurs à 20 ans, en disant que les gens qui racontent leur mémoire, c'est des gens qui n'ont vraiment plus rien à dire, ni plus rien à faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il se protégeait consciemment ? Je ne le pense pas, comme tout un chacun, peut-être. Parce qu'il n'y avait pas, me semble-t-il, de traumatisme particulier concernant le milieu familial proprement dit. C'est vrai qu'il a eu une enfance tout à fait, c'était un petit garçon joyeux, insouciant, qui adorait le foot, qui adorait le cinéma, qui adorait jouer avec les copains, qui chapardait des bonbons et des billes dans les petits commerces, y compris le commerce de sa mère. Voilà, c'était une famille nombreuse. Mais comme dans ce genre de famille où à la fois il y a les enfants grandissent, quoi, mais avec une vraie présence des parents.
Mais très vite, cependant, Alice Cherki, l'histoire va rattraper ce petit garçon qui vit une enfance paisible, puisque en fait, il faut le rappeler, il est tout jeune au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, il a 14 ans, je crois. Et ça va être dans sa vie la première occasion d'engagement, en réalité.
Oui. Alors, par rapport à l'enfance, vous disiez tout à l'heure qu'il ne se racontait pas. Et j'avais accueilli ça, d'ailleurs, comme quelque chose d'assez exceptionnel. Quand, très longtemps après, puisque c'était à Tunis, il a raconté un souvenir, mais qui n'était pas directement lié à la famille, qui était lié à l'habitude qu'on avait d'emmener les enfants des écoles pour célébrer Chelcher, qui avait libéré les esclaves de leur chaîne. Et tout d'un coup, je dis, pourquoi on célèbre cet homme comme un héros, mais après tout, mais qu'est-ce qu'il y avait avant dont on ne parle pas? Et je crois que pour lui, ça a été quelque chose... Quand il en parlait après, il était extrêmement ému. Parce que c'était comme un vrai souvenir, quelque chose qui l'avait fait vaciller à cette époque-là. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un premier temps, si vous voulez, rétrospectif, que l'on peut dire par rapport à son engagement au moment même où la guerre éclate et où surtout arrive aux Antilles l'amiral Robert. Et les Antillais, les jeunes, eux, ils avaient une imagination fantastique. La flotte qui arrive, toute la flotte française. Ils se racontaient même sur la petite promenade qu'ils faisaient de déambulation sur la savane que tout l'or de la France était venu avec la flotte, etc. Et puis les grands sous-marins, etc. Et en fait, la réalité est beaucoup plus rude, c'est que d'une part, l'amiral Robert va rallier très vite Pétain, et que ça va être une flotte d'occupation, et d'occupation sur tous les plans. Aussi bien sur le plan d'interdire, par exemple, la revue de Césaire Tropique, qui était une très très belle revue qui commençait, que de rafler toute l'alimentation pour la flotte et pour les marins, et aussi un racisme tout à fait de gens pays conquis et de blancs vis-à-vis d'une population noire et métissée. Donc c'est une expérience très cruelle. C'est assez violent et cette imprégnation comme ça du racisme et aussi de cette confrontation avec le pétainisme qui est là, s'inscrit au premier plan, fait que ces jeunes gens, et Fanon très particulièrement, se dit non, la France, c'est pas ça. Et c'était très... Dans beaucoup d'endroits, dans les colonies, hein, c'était comme ça. Non, la France, c'est la France des droits de l'homme, c'est la France de la liberté, de l'égalité, c'est pas ces gens-là. Et la deuxième idée, effectivement très forte aussi, qui est qu'on ne peut pas laisser le nazisme déferler sur le monde. Et donc c'est là où très tôt, en 43 à peu près, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que les choses sont possibles, il va s'engager. Et il reviendra, quelques mois plus tard, au moment même où s'organise un bataillon 5 qui fera partie de la 2e DB et qui regroupe des jeunes volontaires qui vont rejoindre l'Afrique du Nord.
Oui, donc sa première arrivée en Afrique du Nord, c'est à l'intérieur des forces de libération et de lutte contre le nazisme.
Oui.
Il y a une phrase que j'ai retenue, que vous rapportez dans votre livre, Alice Cherki, au sujet de cet engagement contre le nazisme, lorsque Frantz Fanon va écrire à ses parents et leur dire « Je me suis trompé ». Il ne s'agit bien évidemment pas d'une erreur concernant la lutte contre le nazisme, mais peut-être d'une expérience très douloureuse qu'il a faite au sein de l'armée. Expérience de la discrimination, en fait.
Oui.
Et là, il a vécu ça de façon très intime.
Tout à fait. Bon, déjà, ce que j'appelle le racisme au quotidien, le racisme banal, l'espèce de hiérarchisation dans l'armée. Cette deuxième DB était très cosmopolite. Hein. Il y avait les évadés, il y avait les Français volontaires d'Algérie, il y avait les tirailleurs, les tabors marocains, il y avait, je ne vais pas tout décrire, mais il y avait les tirailleurs sénégalais au bas de l'échelle. Et les Antillais, qui étaient ceux de la vieille colonie, étaient apparemment comme des Français, donc ils portaient le calot, c'était le couvre-chef qui était l'insigne. Mais quand ils rentraient au campement sans leur couvre-chef, on les dirigeait vers les guetounes des tirailleurs sénégalais, et pas de manière simple. Et plein de choses comme ça, je veux dire que partout, cette discrimination raciale se faisait sentir, et y compris, semble-t-il, surtout en Alsace, dans l'expérience qu'il fait en Alsace, et c'est là où il écrit cette lettre-là, où il a l'impression que ce racisme sévit aussi dans la petite population, chez les paysans, puisque dans cette lettre, il dit « de risquer ma vie, je vais mourir demain ». C'est tout à fait le sentiment tragique de Fanon. « Et je vais mourir demain pour un paysan qui s'en fout ».
Et
donc, voilà, c'est... Ne dites pas, joue-t-il dans cette lettre, que je serai mort pour une juste et noble cause.
Je commence à souffrir de ne pas être un blanc, dans la mesure où l'homme blanc m'impose une discrimination, fait de moi un colonisé, m'extorque toute valeur, toute originalité, me dit que je parasite le monde, qu'il faut que je me mette le plus rapidement possible au pas du monde blanc, que je suis une bête brute, que mon peuple et moi sommes comme un fumier ambulant hideusement prometteur de canne tendre et de coton soyeux, que je n'ai rien à faire au monde. Alors j'essaierai tout simplement de me faire blanc, c'est-à-dire j'obligerai le blanc à reconnaître mon humanité. Peau noire, masque blanc.
Après la guerre, Alice Cherki, Frantz Fanon retourne en Martinique, sa terre natale. En fait, il va y rester fort peu de temps. Et finalement, au regard de l'ensemble de sa vie, on peut dire qu'il a très peu vécu dans son pays natal. Pensez-vous que les Martiniquais, les Antillais, de façon générale, lui en ont voulu de son exil ?
Oui. Enfin, c'est plus compliqué maintenant, mais pendant longtemps, oui. Ils lui en ont voulu. Beaucoup n'ont pas compris. Et c'était très compliqué parce que, dans son engagement ultérieur, étant donné que les Antillais étaient français, il ne comprenait pas très très bien le choix qu'avait fait Fanon, qui était un choix de rupture pour eux. Qui était un choix de rupture, et pas seulement par rapport à eux, parce que ça c'est moins vrai, mais par rapport à la France. C'est-à-dire que l'idée d'une traîtrise existait chez les Antillais pendant pendant très longtemps. Les choses changent, les choses ont beaucoup changé, et depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il devient plutôt quelqu'un dont on a envie de reconnaître quelque chose du parcours, mais c'est dû aussi à l'évolution des Antilles au jour d'aujourd'hui.
Par exemple, aujourd'hui, dans les propos de gens comme Édouard Glissant, Aimé Césaire, puisqu'il est encore en vie, Patrick Chamoiseau, est-ce que le nom de Frantz Fanon est un nom qui ressurgit assez fréquemment?
Alors, chez ces personnes-là, oui. Vous le dites d'une façon, par un détour comme ça, je veux dire que pour des gens comme Raphaël Confiant ou pour Chamoiseau, ou pour Daniel Maximin, qui, comme par hasard, sont des écrivains, le nom de Fanon et la lecture des textes de Fanon, etc., a été extrêmement important. Pour eux, c'était important, Glissant aussi. Glissant avec plus de recul ou de... Il dit, je crois toujours, que effectivement, la façon dont Fanon s'était engagé témoigne du fait qu'aux Antilles, on ne voulait rien savoir de la condition des Antillais et qu'il fallait faire un détour. Que Fanon a été l'exemple de ce détour, mais jusqu'à un point qui, pour lui, serait un point de non-retour.
Samy Tchak.
On a aussi dans le discours entier de Glissant, bon, ben, des pages très belles consacrées à Fanon avec une critique très nuancée, bon, une façon de dire peut-être que sa pensée est relativement dépassée ou il faut la réactualiser. Bon, je comprends de la part de Glissant que, bon, pour quelqu'un qui se veut un penseur qui brasse les problèmes du monde, il ne peut exister que si la pensée de l'autre est dépassée, puisque les pensées se succèdent. Si elle est encore valable, l'autre n'est plus nécessaire. S'il y a nécessité de la pensée de Glissant, il faut que celle de Fanon soit périmée. Bon, mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas vu des intellectuels caribéens très populaires consacrer un travail de sérieux à Fanon. Je pense par exemple à Chamoiseau ou Confiant qui ont écrit sur Glissant ou sur Césaire, mais jamais sur Fanon. Pour moi, il me semble, surtout si on est aussi proche, soit par la couleur ou par le territoire, on a des complexes quand même. C'est-à-dire, bon, ben, à l'âge où il écrivait ce texte, on peut dire que qu'à cet âge, on n'a même pas toujours la capacité de le comprendre. Donc, si quelqu'un fait une œuvre aussi achevée avant de mourir à 36 ans, alors que, bon, ben, on a le temps, 70, 80 ans, on continue encore à balbutier sur sa pensée. Peut-être que c'est un peu gênant. Le silence vient aussi atténuer un peu le sentiment de jalousie légitime qu'on éprouve, puisque, bon, on est dans une logique d'admiration et de concurrence toujours voilée. Donc, on peut être un peu gêné de ressusciter un mort comme ça qui ferait ombrage aux vivants.
Les années de formation de Frantz Fanon, Alice Cherki, ont lieu en France. Alors c'est là, bien évidemment, qu'il va entreprendre ses études de médecine. Mais c'est là également qu'il va manifester des curiosités en direction de la philosophie, les premières envies aussi d'écriture, puisqu'il va commencer à écrire de la poésie, du théâtre. S'il fallait, au fond, retenir un épisode déterminant de ces années de formation, est-ce que ça ne serait pas son passage à Saint-Alban qui serait le plus important?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que certes, ce qu'il a écrit, que ce soit le syndrome nord-africain ou Peau noire et masque blanc, dont il voulait faire sa thèse de médecine, sous le titre pompeux de « Essai de psychopathologie d'un noir » ou « du noir », ça aussi, c'est un trait très caractéristique de Fanon. Il ne doutait pas une seconde que dans le service de psychiatrie classique des années 50, dans lequel il se trouvait, on allait accepter comme thèse de psychiatrie peau noire et masque blanc. Il n'en doutait pas une seconde. Mais alors, revenons à des choses plus sérieuses qui sont qu'effectivement, je crois que L'expérience centrale pour Fanon, ça a été son passage à Saint-Alban, sa rencontre avec François Tosquelles, et sur le plan de... Enfin, la psychiatrie qu'il cherchait, c'est-à-dire cette psychiatrie, cette sociothérapie institutionnelle du lendemain d'après-guerre, qui était quand même inventée par Tosquelles et puis par toute une école qui reposait la question de la relation entre les aliénés, comme, non, les fous, on disait à l'époque, et les psychiatres, et qui, à mon avis, une chose à redire aujourd'hui, qui était de remettre la relation au centre du rapport, et non pas de faire des fous un objet épinglé sur un présentoir, et de refaire d'une institution un lieu thérapeutique où tout le monde tisse ensemble un tissu de référence, un tissu d'histoire, de créativité. Voilà. Et ça, ça a été vraiment pour Fanon essentiel. C'est-à-dire que c'est ce qu'il cherchait. Et en plus, je crois qu'il avait, avec tout ce qu'il y a, c'est... On disait tout à l'heure qu'il parlait pas, qu'il ne racontait jamais rien. La seule personne dont il parlait dans les années ultérieures, en tous les cas, à Blida, de toutes ces expériences qu'il avait faites, puisque même ce qu'il avait écrit, il n'en parlait pas. C'est Tosquelles, ce militant antifranquiste, émigré espagnol dans les années 30, qui était venu comme ça s'installer à Saint-Alban, qui avait inventé tout ça avec beaucoup de ténacité. Et puis qui parlait avec cet accent à couper au couteau que Tosquelles a gardé jusqu'à la fin de sa vie et qui faisait l'émerveillement de Fanon.
Sale nègre. Ou simplement, tiens, un nègre. J'arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses, mon âme pleine du désir d'être à l'origine du monde, et voici que je me découvrais objet au milieu d'autres objets. Enfermé dans cette objectivité écrasante, j'implorais autrui. Son regard libérateur, glissant sur mon corps devenu soudain nul d'aspérité, me rend une légèreté que je croyais perdue et, m'absentant du monde, me rend au monde. Mais là-bas, juste à contre-pente, je bute, et l'autre, par geste, attitude, regard, me fixe, dans le sens où l'on fixe une préparation par un colorant. Je m'en portais, exigeais une explication, rien n'y fit. J'explosais, voici les menus morceaux, par un autre moi réunis. Tant que le noir sera chez lui, il n'aura pas, sauf à l'occasion de petites luttes intestines, à éprouver son être pour autrui. Il y a bien le moment de l'être pour l'autre, dont parle Hegel, mais toute ontologie est rendue irréalisable dans une société colonisée et civilisée. Peut-être nous objectera-t-on qu'il en est ainsi de tout individu, mais c'est se masquer un problème fondamental. L'ontologie, quand on a admis une fois pour toutes qu'elle laisse de côté l'existence, ne nous permet pas de comprendre l'être du noir. Car le noir n'a plus à être noir, mais à l'être en face du blanc. Peau noire, masque blanc. Sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise. Fanon a écrit Peau noire et masque blanc à 25 ans. Quand il a été édité en 52. Donc il lui a bien fallu. Il avait mis quand même quelques temps à l'écrire. Il a commencé l'écriture de ce livre, il avait 25 ans.
il y a, c'est, je veux dire qu'il y a beaucoup, mais d'ailleurs, si on le lit attentivement, Peau Noire et Masque Blanc, on voit bien aussi quand même que c'est quand même un livre de, une œuvre de jeunesse, malgré le caractère absolument prémonitoire de l'analyse du racisme et de la situation coloniale dans ce livre, qui lui permet de tenir tête à Manoni d'une façon absolument centrale, on va dire, d'une façon très où il est très précurseur. Mais en même temps, on voit bien, avec toutes les références pêle-mêle qu'il cherche comme ça à utiliser, philosophiques, sociologiques, psychanalytiques, etc., où il y a un peu comme ça un travail de chercher des références pour pouvoir expliquer son propos. Il faut aussi rappeler ça quand même, je veux dire, mais il n'empêche que ce livre qui se termine par cette phrase « Oh, mon corps fait toujours de moi un homme qui interroge », et même dans la description qu'il fait, je dois dire, dans Peau Noire et Masque Blanc, de qu'est-ce qu'on éprouve sous le regard et comment on se sort de cet éprouvé du regard, c'est-à-dire comment, quand quelqu'un vous désigne et dit « Tiens, un nègre », et que cet étudiant, etc., se retrouve tout d'un coup pétrifié. Et comment sortir de la pétrification sous ce regard qui inhibe et qui brûle ? Eh bien, ou bien on reste pétrifié, et on reste complètement sidéré, et on devient humilié, l'objet de honte, on éprouve de la honte, et on reste sous ce regard. Ou alors, il faut créer une scène. Ou alors, il faut inventer, il faut trouver des paroles. Et c'est comme ça que la violence va s'organiser. C'est-à-dire que... Et c'est comme ça qu'on va pouvoir... Alors, pour Fanon, ça a été la scène de l'écriture, proprement dit, mais aussi la scène de l'engagement.
Une sorte d'évidence, Albert Mémy, à venir vous voir pour parler de Frantz Fanon. Évidence en ce sens que vos œuvres sont très souvent comparées. Elles le sont pour une première raison qui est fondamentale, c'est que vous avez tous les deux en commun des réflexions, étayées par des écrits, sur l'aliénation du colonisé et sur la décolonisation.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'ai signalé. Ce sont d'ailleurs les Américains qui, les premiers, ont fait ce rapprochement. Ah oui, une question qu'on me pose très souvent. Vous qui avez connu Fanon, on me dit par exemple, souvent, je réponds, c'est aussi bête que ça, nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous ne sommes pas vus, nous ne sommes pas rencontrés, simplement nous appartenions à quelques années près à la même génération et nous avons été impliqués tous les deux dans la même période historique, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, et puis ensuite le début des troubles en Tunisie. Il mourra en route, d'ailleurs, lui, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est la même période, donc lui était... il avait donc quitté les Antilles natales pour l'Afrique du Nord. Et d'une certaine manière, nous avons essayé d'y répondre chacun à sa manière, naturellement. C'est vrai que dans la manière dont nous avons répondu, il y a des points communs aussi. Je ne peux que vous citer deux choses, par exemple, la découverte du racisme. Pas seulement la découverte, mais le fait de l'avoir vécu. C'est pas seulement chez nous, chez lui comme chez moi, l'objet d'une étude théorique. Nous avons vécu, moi, comme... juif tunisien, de nationalité tunisienne, donc à l'époque sous la colonisation, et comme juif également, appartenant à une classe, des classes sociales défavorisées. Enfin bref, je vivais, c'était l'exclusion, comme on dit aujourd'hui, c'est pas le mot qu'on employait à l'époque. Je vivais tout ça, je voyais également la manière dont les musulmans souffraient de racisme, dont les noirs souffraient de racisme, donc lui était noir, nous y reviendrons tout à l'heure si vous voulez. Qui me paraît un point très important. On passe un peu vite là-dessus, sur le fait qu'il fut noir. Mais certainement, donc, il a vécu le racisme d'une multiple manière comme moi. Et donc, nous avons été confronté à ce problème et éventuellement comment s'en débarrasser. Donc, le deuxième point dans cet itinéraire, dans cette communauté d'itinéraires, c'est effectivement de fil en aiguille d'arriver au problème de la domination. Il y a des hommes qui, pour des raisons historiques diverses, ont été dominés. Le colonisé, c'est quelqu'un qui, à la suite, il est né dans cette domination et donc il va intérioriser cette domination. Et il y a, c'est le concept d'aliénation qui a été donc proposé par les marxistes, très justement, je crois, c'est à partir de là où nos chemins vont diverger.
À propos de cette aliénation du colonisé, Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, parle beaucoup de dépersonnalisation et d'humiliation. Je suppose, Albert Mimi, que ce sont des termes qui vous sont familiers.
Ce sont des termes qui sont à la fois sociologiques et psychologiques. Hein, il faut faire attention ici. Il était psychiatre, lui, il savait ce qu'il disait. Il ne parlait pas à la légère. Je pense que le mot dépersonnalisation ici est un peu équivoque. Vous voyez, les difficultés commencent dans la comparaison. La dépersonnalisation est un phénomène psychiatrique, c'est psychopathologique. C'est les gens qui ne se reconnaissent pas. C'est le thème, ils ne se reconnaissent pas dans un miroir, ils ne se reconnaissent pas physiquement, le problème du corps. Je pense que c'est ça. S'il fait allusion à ça, ça ne me paraît pas évident. On ne peut pas dire que les colonisés, dans leur majorité, soient dépersonnalisés. Mais par contre, au sens sociologique, oui. Mais ça, dans mon portrait du colonisé, j'en parle aussi. Je ne parle pas de dépersonnalisation. Et plutôt, ce sont des gens dont le patrimoine culturel n'a pas force de loi, n'a pas force de cité. L'aliénation, bon, ça, tout le monde sait ce que c'est. Il est certain que le colonisé, le dominé, en général, ne coïncide pas tout à fait, enfin les deux parties de lui-même, l'aspect, d'où à la limite une espèce de schizophrénie, si vous voulez, de coupure dans la personnalité. Et on peut rejoindre éventuellement l'aspect psychiatrique dont nous parlions tout à l'heure. Et donc il a vécu dans sa chair, tout à fait clairement, le racisme. Mais, je vous répète, il aurait mieux fait se battre contre le racisme anti-noir que contre le racisme anti-maghrébin. Il a bien fait de le faire, hein. Ne simplifions pas. Mais à mon avis, c'était là où se passait sa bataille.
Oui, au noir, on demande d'être un bon négro. Ceci posé, le reste vient tout seul. Le faire parler petit nègre, c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence, d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Et naturellement, de même qu'un juif qui dépense de l'argent sans compter est suspect, le noir qui cite Montesquieu doit être surveillé. Qu'on nous comprenne, surveillé dans la mesure où avec lui commence quelque chose. Et certes, je ne prétends pas que l'étudiant noir soit suspect à ses camarades ou à ses professeurs, mais en dehors des milieux universitaires, subsiste une armée d'imbéciles. Il importe non pas de les éduquer, mais d'amener le noir à ne pas être l'esclave de leurs archétypes.
Sous le ciel d'appui grand, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et vous nous en bénissez.
De Frantz Fanon a circulé très tôt dans les milieux intellectuels africains. Et je suppose, Samit Chak, que lorsque vous avez pour la première fois lu son œuvre, vous aviez déjà entendu parler de l'homme. Quelle image aviez-vous de lui ?
L'image que j'ai de Frantz Fanon, elle est un peu comparable à l'image qu'on a de tous les écrivains qui sont d'abord connus comme des révolutionnaires, avant qu'on ne connaisse leurs pensées, des gens comme Che Guevara. J'ai connu Frantz Fanon comme quelqu'un qui luttait. Je ne savais même pas qu'il avait écrit. C'est plutôt l'homme qui a lutté pour les opprimés.
Et donc, quelle a été votre première approche de l'œuvre? Lorsque vous avez lu, c'était votre première lecture, c'était Peau noire, masque blanc?
Peau noire, masque blanc, je pense que c'est le texte le plus connu dans les milieux intellectuels africains et dans beaucoup de pays du monde. Je pense que c'est le texte le plus connu. Je l'ai d'abord abordé comme un texte, je dirais même pas comme un texte d'un penseur de la Révolution. J'ai plutôt pris Peau noire, masque blanc comme un manifeste. Ce qui déjà est une grille très faussée de lecture, ben c'est un manifeste. Heureusement que bon, ben, il a quand même une certaine complicité, une telle force que, au bout de 10-15 pages, on se détrompe et on reprend une lecture. Oui. Et là, j'ai compris que c'est beaucoup plus que ce qu'on m'avait dit quand même de ce texte. Oui.
Vous avez le souvenir de vos émotions, de vos sensations au moment de cette découverte de Peau noire, masque blanc?
Je me souviens surtout de quelque chose qui était tout à fait épidermique au niveau de la révolte probable des situations qu'il décrivait, mais de ce rythme très physique de l'écriture. Finalement, bon, c'est quand même une dimension occultée, mais avant tout, c'est vraiment un styliste. Au-delà de la pertinence ou des petites critiques légitimes qu'on peut faire de la pensée, il y a cette forme qui ne laisse pas indifférent, qui une sorte de phrases comme ça qui sont assénées à un tel rythme que ben, je le sentais plutôt en le lisant, je le sentais très physiquement.
Et c'est vrai, lorsque Frantz Fanon parlait de dépersonnalisation et de l'humiliation des colonisés, en 51-52, c'est-à-dire au moment où il rédigeait ce texte, il était aux avant-gardes, bien évidemment. Lorsque vous en avez fait la lecture quelques décennies plus tard, est-ce qu'il avait toujours la même actualité?
C'est même ça qui est, à mon avis, très étonnant, parce que Frantz Fanon écrivait au moment où moi je n'étais pas encore né. Il mourait quand je n'avais qu'un an, tout au plus. Mais quand j'ai lu « Peau noire, masque blanc », j'avais plutôt l'impression que c'était quelqu'un qui est en train de me parler de l'actualité. Bien que d'autres textes aient peut-être eu de nouveaux éléments pour apporter une nouvelle approche, ben, le sien me semblait encore plus proche de la réalité que je vivais, de la réalité dont j'avais des échos par mes lectures, que ce soit aux États-Unis ou dans les Antilles. Donc le texte semblait tout à fait actuel. Et jusqu'à présent, ben, quand je relis « Peau noire, masque blanc » ou « Les damnés de la terre », je retrouve cette même actualité. Je pense même qu'il y a une possible extension de son interprétation par la diversification des formes de violence et par la diversification des formes de domination qui ont dépassé le cadre colonial.
Mais par rapport aux autres écrits, il y en avait quand même eu un certain nombre qui ont traité de la question noire et de la question de la colonisation. Que diriez-vous de l'œuvre de Fanon? Qu'a-t-elle de spécifique et de particulier dans le champ des écrits théoriques?
Ce que l'œuvre de Fanon a de très particulier pour moi, c'est d'être à la fois des écrits d'une personne qui s'est impliquée physiquement dans la lutte, d'une personne qui a une démarche scientifique très rigoureuse, puisque c'est quand même un universitaire, mais en même temps de quelqu'un qui écrivait comme sous la pression de l'urgence. On avait l'impression que c'est quelqu'un qui avait très tôt compris qu'il n'avait que l'instant. Il n'était pas venu pour rester, il avait des choses à dire. Donc, on n'a pas ce travail tout à fait fini d'un universitaire qui construit des postulats, qui va peut-être passer des années à parfaire un texte. Je peux dire que, à la rigueur, malgré cette capacité d'analyse qui fait appel à beaucoup de sciences humaines, on dirait qu'il y a une dimension très orale, donc quelque chose d'urgent, et qui donne à son texte beaucoup plus de force, en ce sens que, bon, ce n'est plus réservé à une élite, on n'est pas obligé d'être psychiatre, médecin, psychanalyste pour comprendre l'essentiel des écrits de Frantz Fanon. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des textes de beaucoup d'autres universitaires. Je dirais par exemple que j'ai retrouvé chez un écrivain comme Albert Memmi quelque chose qui était déjà dans Frantz Fanon. C'est-à-dire un intellectuel universitaire qui écrit des textes sur des thèmes très compliqués, mais que tout le monde peut comprendre.
C'est ainsi que la labilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cowles, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Je m'excuse de ce terme technique. Rapidement, on estime que les lobes frontaux de l'encéphale, ce sont les lobes où s'intègrent les données métaphysiques, les données d'inquiétude, d'angoisse, de productivité, d'intégration. Et pratiquement, on estime, et en biologiquement, que ce n'est qu'à partir de certains stades que cette partie des lobes frontaux se corticalise. Donc, pratiquement, cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque normalement, il est lobotomisé.
En 1953, l'histoire va conduire Frantz Fanon de nouveau en Afrique du Nord, mais cette fois-ci pour un épisode qui va avoir une certaine durée, puisqu'il est donc nommé à l'hôpital de Blida, à quelques kilomètres d'Alger. Peut-être faut-il rappeler, Alice Cherki, ce qu'était cette Algérie que Frantz Fanon découvre en 53.
Alors, moi, je dis prudemment l'Algérois, parce que je pense que Fanon a connu essentiellement l'Algérois. Oui, il découvre une société cloisonnée complètement en trois groupes, même si il y avait des gens qui ne se référaient pas à la religion. En tous les cas, c'était les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et surtout une société dans laquelle il y avait une espèce de partition tacite, comme des parois de verre, d'ailleurs, parce que personne n'avait vraiment le sentiment que quelque chose pouvait changer, que c'était dans l'ordre des choses. C'est vraiment ce que j'appelle un fait de structure coloniale, mais où l'inégalité était absolument flagrante, c'est-à-dire que sur le plan politique, il y avait deux collèges, collège des Européens pour 1 million d'Européens et des Juifs français, et puis 9 millions de la population, qu'on appelait les Arabes, quels que soient, même s'ils étaient berbères, chaouias, mouzabites, etc., qui étaient les Arabes et qui faisaient partie de ce qu'on appelait le deuxième collège et qui était appelé les indigènes musulmans, et qui n'avaient pas les mêmes droits civiques, n'avaient pas. Et puis il y avait une oppression économique et aussi une oppression culturelle considérable, puisque l'arabe, le kabyle, étaient considérés comme des langues mortes qu'on apprenait en deuxième langue dans quelques lycées de ces pays-là. Et il réalise, par exemple, que des internes qui travaillaient avec lui, aussi progressistes fut-ils, avait ce regard et cette façon d'être avec des collègues éventuellement, qui étaient des collègues dits musulmans, dont on ne savait même pas s'ils n'étaient pas athées d'ailleurs, mais, ou communistes, etc. Comme si cela n'avait pas d'histoire, comme s'il n'avait pas de référent culturel. Et alors il le découvre encore plus fort au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida, où il se rend compte que tous ces malades mentaux qui viennent plus souvent comme dans les asiles d'une population rurale, des montagnes et des campagnes, et qui forment les 9/10 de la population, sont aussi coupés de leurs référents. Mais ce qu'il y a, c'est que ça reste enclos. Ça reste encrypté, parce que ça reste toujours enfermé, mais ça reste toujours là. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant à voir découvert, je veux dire. Donc, il se retrouve, effectivement, dans cette société coloniale dont il ne mesurait pas à ce point le fonctionnement, même s'il avait vécu aux Antilles, il ne mesurait pas à ce point le fonctionnement de cette société, sur tous les plans, et il découvre aussi ce qui va de pair avec cette société, la théorie de l'école de psychiatrie d'Alger, qui était la théorie du primitivisme. C'est-à-dire que les indigènes sont des primitifs, et sont des primitifs non seulement dans leur culture, etc., mais aussi biologiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cerveau développé de la même façon que les Européens, ce qui expliquerait qu'ils sont menteurs, impulsifs, inadaptables au travail et incurables. Donc ils découvrent tout ça, ça se jouait quand même là-dedans, dans cette partition absolument... pour les jeunes d'aujourd'hui, je crois assez insensée, parce que c'était même plus subtil que l'apartheid.
En tant que soignant, en tant que thérapeute, Frantz Fanon est tout de suite, dès son arrivée en Algérois, au contact également de l'intimité des gens qu'il soigne. Or, cette intimité-là, il ne la connaît pas. C'est-à-dire en ce sens qu'il ne connaît pas les pratiques de vie, il ne connaît pas les croyances. En 3 années, il va faire une expérience de découverte de l'autre qui est une expérience absolument énorme.
Oui. Tout à fait. Et comme vous avez constaté qu'il faisait vite, qu'il allait vite, il s'y met tout de suite. Je dirais que vraiment, il s'y met tout de suite. Tant qu'il a pu circuler dans le pays, il a été, chose que personne, aucun psychiatre n'avait fait jusqu'à présent, il va dans les villages kabyles, il va voir comment fonctionnent les marabouts, il va voir comment fonctionnent les djemas dans les villages, les conteurs, il cherche partout, d'autant plus que justement, dans son expérience même de psychothérapie institutionnelle qu'il veut mettre dans son service, il commence par essayer d'appliquer les méthodes qu'il avait pratiquées à Saint-Alban. Et il a 2 secteurs, parce qu'il a un secteur qui c'est le secteur des femmes européennes, parce que c'était comme ça qu'étaient groupés les services. Vous aviez les femmes européennes, les femmes indigènes, les hommes européens, les hommes musulmans. Alors il a 2 services qui lui ont été confiés, un de femmes européennes et l'autre d'hommes indigènes musulmans. C'est très difficile à nommer, d'hommes indigènes musulmans, puisque c'est comme ça que les appellations se sont successivement déplacées. Alors chez les femmes, ce qu'il met en place, ça marche remarquablement. Le théâtre, le chant choral, toutes sortes d'activités de ce genre. Et il a beaucoup de difficultés dans le pavillon des indigènes musulmans, alors qu'il s'entoure là vraiment d'infirmiers qui parlent la langue, d'interprètes. Et ça marche pas du tout au début. Et il découvre en fait que, disons qu'il a au fond joué le jeu de l'assimilation, c'est-à-dire qu'il s'est pas rendu compte qu'il fallait aller justement à la recherche de ce qui faisait sens pour ces gens-là, et que leur proposer de jouer à la pelote basque ou de faire de la vannerie à des hommes musulmans, c'était dénué de sens pour eux, parce que d'abord, tisser des paniers, c'est une activité pour les femmes, ancestralement. Je veux dire que jamais un homme des montagnes de Kabylie n'a tissé un panier, et que la pelote basque, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et finalement, de proche en proche, il découvre qu'il faut trouver dans les modes de vie de ces personnes les structures. Mais c'est important parce que je dis qu'on n'a pas, on connaît très peu l'activité psychiatrique de Fanon.
Marie-Jeanne Manuelan.
Fanon, c'était vraiment un éveilleur, Fanon. Mais il faisait ça avec moi, mais il faisait ça avec tout le monde. Bon, il ne les faisait pas travailler sur des livres, mais même la femme de service. Je disais souvent, il aimait enseigner, c'est pas ça. En relisant Les damnés de la terre, il fallait agrandir le cerveau de l'homme. Alors ça, tout le monde l'a déjà dit, il était exigeant, Fanon. Mais il n'était pas exigeant que pour le travail. Il fallait que chacun aille au bout de lui-même. Il nous faisait être plus grands que nous-mêmes, Fanon. Hein? C'était pour se désaliéner, pour avoir une plus grande liberté. Donc, il disait par exemple, donnez-moi des infirmiers, moi en 2 ans, je vous en fais des médecins. Et sans arrêt, parler, pas du tout en pontifiant, hein, pas du tout en pontifiant.
Mais la guerre continue. Et nous aurons à penser des années encore les plaies multiples et quelquefois indélébiles faites à nos peuples par le déferlement colonialiste. L'impérialisme, qui aujourd'hui se bat contre une authentique libération des hommes, abandonne çà et là des germes de pourriture qu'il nous faut implacablement détecter et extirper de nos terres et de nos cerveaux. Nous abordons ici le problème des troubles mentaux nés de la guerre de libération nationale que mène le peuple algérien. On trouvera peut-être inopportune et singulièrement déplacée dans un tel livre ces notes de psychiatrie. Nous n'y pouvons strictement rien. Il n'a pas dépendu de nous que dans cette guerre, des phénomènes psychiatriques, des troubles du comportement et de la pensée aient pris de l'importance chez les acteurs de la pacification ou au sein de la population pacifiée. La vérité est que la colonisation, dans son essence, se présentait déjà comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Les damnés de la terre.
Votre rencontre avec Frantz Fanon, Marie-Jeanne Manuelan, remonte à la fin de l'année 1958. Ça se passe à Tunis, à l'hôpital Charles-Nicolle, c'est
voilà.
Cela ?
Je crois bien que c'est 58.
Donc Frantz Fanon était arrivé en Tunisie environ une année auparavant.
Je crois qu'il était arrivé au début de l'année 57. Mais il avait d'abord travaillé à l'hôpital de la Manouba, qui était un asile, quoi. On appelait ça l'asile. Et il avait créé ce centre neuropsychiatrique de jour. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai été nommée chez lui. Parce que moi, j'étais assistante sociale. Et à Tunis, c'était le ministère de la Santé qui me nommait ici ou là. Quand un jour, on m'a convoqué au ministère et on m'a dit, voilà, il faudrait qu'il y ait une assistance sociale chez le docteur Fanon, parce que quand les experts de l'OMS viennent, c'est mieux de leur montrer un service où il y a tout ce qu'il faut. Donc je suis allée chez Fanon, de fort mauvaise humeur, mais je n'avais pas entendu parler de lui du tout. Alors je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire comme service social dans ce service, où il y avait peut-être une centaine de malades, de patients qui venaient le matin et qui partaient le soir. Alors il y avait une salle de coma insulinique, il y avait les hommes, il y avait les femmes. Bon, et alors que faire ? Je m'étais aperçue depuis un an que je travaillais en Tunisie, j'avais commencé à travailler en 57, en début 57, qu'il y avait aucun moyen, quoi. Alors bon, ben je restais à ne rien faire. Alors quand Fanon arrivait le matin, il me saluait de loin, très très froid. Je trouvais qu'il avait l'air très sévère. Je me sentais mal parce que j'avais l'impression qu'on me payait pour à ne rien faire. Alors ça a duré un bout de temps, peut-être bien 3 ou 4 semaines. Et puis un jour, mon bureau était juste en face du sien. Il est arrivé puis il m'a dit, vous me suivez pendant la visite, vous copiez, vous marquez tout ce que je dis et tout ce que dit le malade. Bon alors, je suivais Fanon au lit des malades avec ses internes, dont Alice Cherki, Charles Géronimi et puis le docteur Lévy. Et voilà que, avec Fanon, je découvrais que derrière les histoires que les gens me racontaient, c'était pas la véritable histoire, qu'il y avait une autre histoire derrière. Alors évidemment, il parlait de l'inconscient, il me parlait pas à moi, mais il parlait avec ses collègues. Moi, je ne comprenais pas grand-chose parce que, comment vous dire, j'avais été au Parti communiste de 47 à 56 après la Hongrie et un psychanalyste, ça nous faisait doucement rigoler, quoi. C'était une science bourgeoise, donc je n'avais jamais lu un bouquin de Freud, ni rien. C'était assez renversant, ce truc-là. Et puis les mois ont passé, deux, trois mois après, il s'est ramené un jour à la porte, et puis à la main porte ouverte. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler? J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Il m'a dit, bon, alors vous allez aller chez Lévy. C'était un libraire d'étudiste. Il m'a fait une liste de bouquins de Freud. Je vous en ai mis un là, vous voyez, c'est les vieilles éditions. Et alors, il m'a dit, voilà, alors, je vous ferai travailler, moi. Et alors, il m'a donné des trucs à lire, après on en parlait. Mais alors, il y avait une chose que j'ai toujours retenue. C'était plus longtemps après. Les gens venaient de toute la Tunisie, hein. Ils avaient de la famille à Tunis, donc ils pouvaient aller le soir en sortant. Il y avait une jeune femme qui était venue de son bled. Et elle était dépressive. Elle nous parlait toujours de son beau-frère. Son beau-frère avait toutes les qualités et son mari n'en avait pas beaucoup. Enfin, alors Fanon l'avait soignée et tout. Elle était repartie. Puis quelques mois après, elle est revenue. Et Fanon passait au lit des malades avec toute la tribu de personnel, c'est les médecins et puis l'infirmier et ma pomme. Et alors, il a pris la main de la dame, comme ça, dans son lit. Il a fait comme ça.
Il l'a caressée.
Il l'a regardée. Il nous a regardés. Et il a dit, devant ces malades, on est rempli d'humilité. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Parce que c'était un type, il avait tout à fait conscience de sa valeur, mais il savait être très humain aussi. Hein. والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافضات في الجبال العاليات الراسيات نحن قرنا حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر تشهد 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 نحن جند
Mais vous avez été, Marie-Jeanne Manuelan, le témoin privilégié des activités de médecin de Frantz Fanon à Tunis. Mais il se trouve que par ailleurs, il avait des activités de militant et des activités d'écrivain.
Oui.
Et là aussi, vous en avez été très vite informé, bien évidemment.
Mais bien sûr. C'est-à-dire que, bon, j'ai su parce qu'on avait des amis algériens, dont un ami très cher qui s'appelle Mansour, qui était le neveu de Serhat Abbas, qui venait très souvent à la maison. J'ai su que Fanon avait des responsabilités au FLN. Mais bon, alors, je ne sais plus à quel moment c'est venu. Enfin, c'est venu un jour, il m'a appelé dans son bureau et puis il m'a dit, asseyez-vous. Et puis il m'a dicté un article pour le Moudjahid. Hein? Donc, enfin, moi, j'en prenais plein la gueule. Ben, j'étais du mauvais côté. Hein?
Qui était à l'époque, il faut le rappeler.
Moudjahid, hein, c'était le journal du FLN. Voilà. Et puis après, il a pris l'habitude de me faire venir dans son bureau quand il recevait... Parce que dans le centre de jour, il y avait des malades tunisiens, mais il y avait aussi des soldats de la LN qui venaient parfois parce qu'ils étaient malades ou bien pour se reposer. Alors, il y avait des malades algériens, des soldats, qui venaient dans son bureau. Et puis moi, je m'asseyais à son bureau et lui parlais avec le patient. Des fois, et quelquefois, il y avait le surveillant, parce qu'il ne parlait pas l'arabe, moi non plus, pour traduire, et quelquefois, il y a eu deux ou trois fois des soldats qui ne voulaient pas parler devant moi. Et alors, Fanon disait, cette dame, c'est un magnétophone. Bon, alors, il finissait par parler, puis c'était très dur, il y en avait qui avaient été torturés. Tout. Et vous voyez, Fanon m'a dit une fois, si c'est trop dur pour vous, vous ne venez plus. Hein? Voilà.
La ville, presque calme au début de l'après-midi, quasiment morte, s'est réveillée brutalement à 15h,
Après lavage de cerveau. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'action psychologique en Algérie. Nous ne voulons pas procéder à l'étude critique de ces méthodes. Nous nous contenterons d'évoquer ici leurs conséquences psychiatriques. Il existe deux catégories de centres de torture par lavage de cerveau en Algérie. Pour les intellectuels. Le principe est ici d'amener le prisonnier à jouer un rôle. On voit à quelle école psychosociologique cela renvoie. Petit A, mener le jeu de la collaboration. L'intellectuel est invité à collaborer en élaborant des justifications à cette collaboration. Il est donc obligé de mener une existence dédoublée. C'est un patriote connu comme tel qui, préventivement, a été retiré de la circulation. Le but de l'action entreprise est d'attaquer de l'intérieur les éléments qui constituent la conscience nationale. Petit B, faire des exposés sur la valeur de l'œuvre française et sur le bien fondé de la colonisation. Petit C, prendre les arguments de la révolution algérienne et les combattre un à un. L'Algérie n'est pas une nation, n'a jamais été une nation, ne sera jamais une nation. Il n'y a pas de peuple algérien. Le patriotisme algérien est un non-sens. Les Fellaghas sont des ambitieux, des criminels, de pauvres types trompés. Tour à tour, chaque intellectuel doit faire un exposé sur ces thèmes et l'exposé doit être convaincant. Pour les non-intellectuels, dans les centres comme Berouachia, on ne part plus de la subjectivité pour modifier les attitudes de l'individu. On s'appuie au contraire sur le corps que l'on casse, en espérant que la conscience nationale se démantèlera. C'est un véritable dressage. La récompense se traduit par l'absence de torture ou par la possibilité de s'alimenter. Ici, les troubles rencontrés ne sont pas graves, c'est le corps souffrant et douloureux qui appelle repos et apaisement.
Et puis un jour, le docteur Lévy m'a dit « Le patron voudrait vous voir ». Et il m'a donné un papier avec un téléphone, un numéro de téléphone. Alors, j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, et je suis arrivée chez Fanon, et il m'a fait asseoir, et il m'a dit « Je vais avoir besoin de vous ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Pour écrire un livre ». Moi, j'ai cru que j'étais au septième ciel, parce que je suis une fille d'instituteur. Mais j'ai eu des grands-parents analphabètes, qui étaient aussi des migrants. Hein ? Alors, le livre, c'était vraiment un objet précieux et puis respectable. Alors, Fanon qui me demandait ça. Alors, il me dit, est-ce que vous savez taper à la machine ? Je lui dis, non, mais j'apprendrai. Alors, donc, on a convenu. Il m'a dit, je ne peux pas venir tout de suite à l'hôpital, mais dans 15 jours, je viendrai à 7h du matin, vous serez là, débrouillez-vous pour trouver une machine, et je vous dicterai, vous taperez. Alors, j'ai trouvé une machine. J'ai fait très longtemps, il y a peut-être 15 ans que je ne fais plus de cauchemars avec ça. Alors, chaque fois que je... Vous savez, il faut faire... pour pousser le chariot, ça accrochait le papier, ça déchirait le papier, puis je ne savais pas taper. Alors, pendant une semaine, à 7h du matin, assise à son bureau, je tapais ce que je pouvais, puis à la fin de la semaine, il s'est mis dans une colère noire. Il a dit, ça ne peut plus durer comme ça, c'est pas possible, ça ne va pas assez vite. Alors, je lui ai dit, mais je vous avais dit que je ne savais pas taper. Et il m'a dit aimablement, je croyais que vous apprendriez plus vite. Alors, quand j'avais tapé ces saloperies, je m'étais acheté une machine que j'ai toujours, une machine d'occasion, et je leur tapais chez moi au propre. Mais évidemment, ça n'allait pas vite. Alors bon, ça a été réglé, je suis rentrée chez moi mortifiée, et puis c'était dans le lac, quoi. Alors j'avais réfléchi entre-temps, moi. J'ai dit, vous savez, j'écris vite. Alors vous pourriez, au lieu de me parler devant la machine, me parler comme ça, j'écrirais vite, et après je le taperais tranquillement chez moi. Et on a fait comme ça. C'était l'enseigne de la révolution algérienne. Voilà. On a fait comme ça.
La guerre d'Algérie entre bientôt dans sa sixième année. Personne parmi nous, comme dans le monde, ne soupçonnait en novembre 1954 qu'il faudrait se battre pendant 60 mois avant d'obtenir que le colonialisme français desserre son étreinte et donne voix au peuple algérien. Après 5 ans de lutte, aucune modification politique n'est intervenue. Les responsables français continuent de proclamer l'Algérie française. Cette guerre a mobilisé le peuple dans sa totalité, l'a sommé d'investir en bloc ses réserves et ses ressources les plus cachées. Le peuple algérien ne s'est pas donné de répit, car le colonialisme auquel il est confronté ne lui en a laissé aucun. La guerre d'Algérie est la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour briser l'oppression coloniale. L'an 5 de la révolution algérienne.
Son livre, on dit dicté parce qu'on n'a pas un bon mot, il est parlé. On aurait dit... Mais c'est après coup que je me dis ça. Il marchait, parce qu'on l'a fait à l'hôpital, puis entre-temps, il a connu mon mari, on le faisait chez moi. Alors, il marchait de loin en large, en parlant, voyez, comme un prof à la Sorbonne. Il parlait, et donc c'était facile. Il y a une seule fois où il a dit une phrase un peu vite, et j'ai pensé à autre chose, moi. Et bien, la phrase a été perdue. Alors, je me suis arrêtée, et lui aussi... Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit, ben voilà, je ne sais plus la fin de la phrase. Alors, il a ri et il a dit, ah, il ne faut pas laisser perdre mes précieuses pensées. Hein, voilà. Mais c'est l'unique fois. Alors, donc, j'écrivais tout ce bazar. Et puis après, le soir, je tapais, il corrigeait, ou il me le redonnait. Il ne faisait pas tellement de corrections, hein. Ni pour l'an 5, ni pour les damnés de la terre.
Si l'on connaît mal Alice Cherki, le travail de psychiatre de Frantz Fanon, en revanche, on connaît mieux ses engagements politiques. À quel moment se sont déclarées ses premières sympathies pour les nationalistes algériens?
Dans les années 55, et justement, c'est par contiguïté avec son activité de psychiatre. Parce que Fanon, au début, connaissait pas bien l'histoire du nationalisme algérien. Et en novembre 54, il était, comme beaucoup de personnes, un peu attentif et un peu ignorant des gens qu'il a connus plus tard et qui avaient déclenché ce mouvement et qui même étaient issus de la grande histoire du nationalisme algérien. Mais d'emblée, il a eu de l'intérêt. D'autant plus que ce qui se passait à ce moment-là, c'est que tous les élus locaux qui avaient un certain nom, qui étaient parmi les gens, les indigènes, aussi bien du premier que du deuxième collège, ont été arrêtés. Alors lui, au début, il disait ben, il faut les libérer pour négocier, pour discuter avec eux. Donc il était dans cette mouvance-là, et puis dans une interrogation. Une chose qu'on oublie de dire, c'est que Fanon a cru... a eu beaucoup d'espoir dans les socialistes français au tout début, dans les années 55. Il a vraiment cru que les socialistes allaient négocier en Algérie. Et il attendait un peu ça. Il a été très déçu après. Mais il attendait ça. Donc c'est vraiment par proximité que les choses se sont faites. Et de proche en proche, il a milité de plus en plus. Il a reçu des maquisards blessés au sein de l'hôpital. Il s'est arrangé d'ailleurs avec la complicité de quelques personnes pour fabriquer des médicaments, pour donner de l'aide, pour apporter tout ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Et par être contacté de plus en plus, d'abord par les gens qui était responsable de ce qu'on appelait la Oulia 4, c'est-à-dire la province, qui était autour de Blida, dont il a rencontré et aidé beaucoup les responsables locaux. C'est comme ça qu'il les a rencontrés, ils ont parlé, etc. Et que plus les choses se durcissaient en Algérie, et plus ils disaient que c'était les indépendantistes qu'il fallait aider, que c'était la seule solution pour le devenir de l'Algérie. Il s'est vraiment de plus en plus engagé là-dedans. Donc, vous voyez, je crois que c'est intéressant. C'est pas une espèce de machin qui est sorti dans de ses eaux, enfin, d'un ciel idéologique. C'est une situation... Mais c'était toujours comme ça avec Fanon. C'est une situation de terrain, une situation de mise en acte de l'expérience... qui le faisait réfléchir et agir.
L'année 1956 est probablement une année charnière.
C'est l'année des fractures.
Oui, de Fanon. D'abord parce que c'est une année qui marque l'extension des conflits armés. Et puis c'est l'année où Fanon démissionne de son poste de médecin-chef à Blida. Mmh.
Lettre au ministre résident, 1956. Monsieur le ministre, sur ma demande et par arrêté en date du 22 octobre 1953, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population a bien voulu me mettre à la disposition de Monsieur le gouverneur général de l'Algérie pour être affecté à un hôpital psychiatrique de l'Algérie. Installé à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville le 23 novembre 1953, j'y exerce depuis cette date les fonctions de médecin chef de service. Bien que les conditions objectives de la pratique psychiatrique en Algérie fussent déjà un défi au bon sens, il m'était apparu que des efforts devaient être entrepris pour rendre moins vicieux un système dont les bases doctrinales s'opposaient quotidiennement à une perspective humaine authentique. Pendant près de 3 ans, je me suis mis totalement au service de ce pays et des hommes qui l'habitent. Je n'ai ménagé ni mes efforts, ni mon enthousiasme. Pas un morceau de mon action qui n'ait exigé comme horizon l'émergence unanimement souhaitée d'un monde valable. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, de mépris de l'homme ? Que sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l'indigence du cœur, la stérilité de l'esprit, la haine des autochtones de ce pays ? La folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que, placé à cette intersection, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Monsieur le ministre, il arrive un moment où la ténacité devient persévération morbide. L'espoir n'est plus alors la porte ouverte sur l'avenir, mais le maintien illogique d'une attitude subjective en rupture organisée avec le réel. Monsieur le ministre, les événements actuels qui ensanglantent l'Algérie ne constituent pas aux yeux de l'observateur un scandale. Ce n'est ni un accident, ni une panne du mécanisme. Les événements d'Algérie sont la conséquence logique d'une tentative avortée de décérébraliser un peuple. Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir est une société non viable, une société à remplacer. Le devoir du citoyen est de le dire. Aucune morale professionnelle, aucune solidarité de classe, aucun désir de laver le linge en famille ne prévaut ici. Nulle mystification pseudo-nationale ne trouve grâce devant l'exigence de la pensée. Depuis de longs mois, ma conscience est le siège de débats impardonnables. Et leur conclusion est la volonté de ne pas désespérer de l'homme, c'est-à-dire de moi-même. Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour ces raisons, j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie avec l'assurance de ma considération distinguée.
Et la réponse à cette lettre, qu'il envoie très officiellement, hein, en tant que psychiatre du médecin du cadre des hôpitaux français, acquis de droit, et la réponse est un arrêté d'expulsion.
Alors, à partir de 1957, Fanon vit à Tunis, il reprend des activités de psychiatre, mais il se trouve aussi que, parallèlement, peut-être parce qu'il est à un moment le porte-parole du FLN, il est conduit à faire plusieurs voyages en Afrique noire. Et il semblerait qu'à partir de ce moment, il s'intéresse énormément à ce qui se passe au-delà de l'Algérie, sur l'ensemble du continent. Est-ce que d'une certaine façon, il ne rejoint pas ses toutes premières préoccupations autour de l'homme noir, du racisme, en allant soutenir et participer à ces mouvements qui sont en train de préparer les indépendances des États africains ?
C'est pas tout à fait comme ça. Parce que Fanon a vraiment pensé que la lutte de ce qu'il appelait la lutte du peuple algérien était une lutte essentielle. C'est son idée, c'était que c'était une nation en mouvement, une culture en mouvement, et que c'était la libération du peuple algérien dans lequel il s'est complètement engagé. Il se trouve qu'il a été reçu par Aban Ramdan, qu'il a fait travailler dans le Moujahid, avec lequel il avait une... Aban Ramdan, pour lui, était un révolutionnaire qui avait une perspective politique, une vision de l'avenir, et qu'il respectait beaucoup. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs épreuves dans son façon d'être un militant algérien, qu'il a assisté à la mort d'Aban Ramdan, et qui, d'une certaine façon, il voyait bien les contradictions intérieures de ce mouvement de libération nationale algérienne et des contradictions qui s'aiguisaient de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait. Que ce qui se passait dans ces contradictions de plus en plus aiguës n'est pas le lieu d'en parler ici au sein du FLN de l'extérieur, a probablement joué dans son intérêt pour l'Afrique noire. Mais probablement aussi, il pensait qu'en découvrant l'Afrique noire, qui était à l'aube de l'ère des indépendances, parce qu'il y avait une hétérogénéité, un kaléidoscope, etc., il pensait très profondément que ces indépendances, qu'elles soient octroyées ou faisant partie d'une lutte armée, étaient là à cause du combat algérien, ce qui est une donnée historique de toute façon, et que, eh bien, c'est à partir de ce combat du peuple algérien que lui, qui connaissait bien ce combat, pouvait aller du côté de l'Afrique. Que de proche en proche, il ait découvert une Afrique noire que, après tout, il ne connaissait pas beaucoup, et qu'il a découvert aussi quelque chose qui a déplacé son regard par rapport au noir, c'est-à-dire que qui a conduit à ce qu'il a appelé les damnés, c'est-à-dire qui a déplacé son regard, qui était, c'est plus des noirs dans un monde blanc, mais c'est des noirs dans un monde noir. Je crois très profondément, et que c'est ça qu'il a voulu porter. Mais c'est pas pour retourner au fait d'être noir, parce que Fanon avait déjà dépassé quelque chose comme ça de la question de l'origine. La question de la négritude était pour lui importante, mais ce qu'il voulait mettre en acte, c'est que on ne peut pas rester fixé au concept de négritude. Que sinon, on est dans une espèce de nature, d'essentialité, et que, en fait, la libération s'accompagne d'un mouvement d'histoire, pour lui, et que la négritude n'était pas une fin en soi. Ça aussi, c'est une donnée fondamentale. Et que pour lui, chaque pays africain avait sa singularité. Et que son grand rêve, le grand rêve de Nkrumah, qui était celui des États-Unis d'Afrique, Fanon a tout fait pour que se réalise sans jamais y croire. Sans jamais y croire.
Tant d'Africains sont morts pour défendre la souveraineté des États européens qu'il vaut la peine aujourd'hui que des Africains acceptent de mourir pour la liberté de l'Afrique. Et ma présence ici, au Ghana, comme représentant officiel du GPRA, le drapeau algérien flottant sur Accra prouve que le gouvernement et le peuple du Ghana soutiennent le peuple algérien, fondent un espoir inconditionnel sur sa victoire et portent une estime fraternelle et chaleureuse aux glorieux soldats de l'armée algérienne. Ma présence ici témoigne que l'Algérie est parmi vous, que vous faites vôtres ses souffrances et ses espoirs et que d'une façon très précise, un grand pas est franchi dans la voie de l'unité et de la grandeur africaine. Accra, avril 1960.
Eh bien, son intérêt pour l'Afrique noire était venu, vu la courte durée de sa vie. On peut donc dire que c'était venu un peu tardivement, mais il a quand même consacré à cette question de l'Afrique noire un texte aujourd'hui dont on ne parle pas tellement, comme on ne parle pas tellement de celui consacré à la révolution algérienne. La question que je me pose aujourd'hui, quand même, en pensant à ce parcours, c'est est-ce qu'il se serait réellement impliqué dans un pays africain et quel aurait été le critère pour le choisir? Parce qu'il y en avait, il y avait au moins 50 pays qui vivaient à la même époque, au cours de la même année, les mêmes ébullitions. Quel aurait été le choix? Où serait-il allé? Et puis, quelle aurait été l'analyse qu'il allait faire à partir de, peut-être, d'un petit désenchantement dès les premières années des indépendances?
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a eu des affinités très fortes avec Nkrumah,
oui.
Qu'à l'époque, Sékou Touré aussi se revendiquait de ce courant tiers-mondiste. Bon, si on observe l'évolution de ces deux situations, c'est difficile de spéculer.
Je ne voulais pas nommer Sékou Touré, parce que quelque part, on sait quand même qu'il a eu aussi des affinités pour celui-là, et il est resté une personnalité ambiguë, on peut même dire une triste figure de la politique africaine, à la fois l'incarnation d'une certaine dimension de la dignité, mais aussi ce que l'Afrique a eu de revers, c'est-à-dire, une dictature très sanglante, la personnalisation du pouvoir, tout le contraire de ce que professait Frantz Fanon, parce que si l'œuvre de Fanon, surtout pour Noir Masque Blanc ou Les Damnés de la Terre, semble prendre l'allure d'un appel à la violence, c'est ce qu'on lui reproche quand même aujourd'hui, il situait la violence comme un moyen obligatoire pour mettre fin à une violence. Il n'a jamais considéré la violence comme un moyen de gouverner ou de construire un destin. Alors que Nkrumah, il a eu le même destin que Frantz Fanon, c'est-à-dire la chance de s'éclipser tôt de la scène politique. Même s'il n'est pas mort aussi jeune, on l'a chassé très tôt de la scène politique, ce qui lui a laissé une petite chance. Il n'a pas eu le temps de porter la déception au degré d'intolérance, chose qu'on peut aussi accorder à quelqu'un qui admire beaucoup Frantz Fanon, le président burkinabé Thomas Sankara, qui a eu la chance de mourir tôt. Pour moi, c'est vraiment une chance que quelqu'un qui croit aux valeurs de la révolution, dont on sait à quoi elles aboutissent au bout d'un certain nombre d'années, meure tôt, comme Che Guevara aussi, qui appréciait Frantz Fanon, qu'il n'a jamais pu rencontrer, mais qu'il a lu avec beaucoup, beaucoup de soin, lui aussi, mort presque au même âge que Frantz Fanon, c'est-à-dire la chance de mourir tôt.
C'est ce qui a permis à Frantz Fanon d'accéder à ce statut de héros.
Je crois que c'est ce qui lui a permis d'accéder à ce statut, dans la mesure où s'il avait eu, disons, le malheur de vivre aussi longtemps que Mémy, par exemple, puisqu'il était impliqué quand même, il y avait cet engagement très concret qui, malgré la lucidité de l'écriture, peut confiner parfois à une sorte de manichéisme. Quand on s'engage, il faut choisir, et quand on choisit, il faut idéaliser le camp choisi. Or, le camp choisi est traversé par les mêmes contradictions que le camp qu'on critique. Donc, quelque part, je crois que son écriture aurait trouvé une mort plus précoce que son corps.
Une vie, une œuvre, Frantz Fanon, avec Alice Cherki, psychiatre, psychanalyste, auteur de Frantz Fanon, portrait, publié aux éditions du Seuil, Marie-Jeanne Manuelan, collaboratrice de Frantz Fanon à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis, Albert Mémy, écrivain, auteur du Nomade immobile, publié aux éditions Arléa, et Samy Tchak, sociologue, romancier, auteur de Place des Fêtes, publié dans la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Et avec la voix de Frantz Fanon en 1956 lors du premier congrès des écrivains noirs. Texte lu par Michel Derville. Les œuvres de Frantz Fanon, Peau Noire, Masque Blanc et Les Damnés de la Terre sont disponibles dans la collection Point aux éditions du Seuil. Quant à l'an 5 de la Révolution algérienne et pour la Révolution africaine, ils ont été réédités en mars 2001 par les éditions La Découverte. Prise de son, Véronique Amiot, Alain Edelec. Mixage, Jean-Michel Bernot, Antoine Anglade. Réalisation, Nathalie Triandafilides. Une émission de Catherine Poinbert.
Cette émission a été diffusée la première fois le 20 mai 2001 sur France Culture.